Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Thalys Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le 9e épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Laure, sculptrice et maquilleuse prothésiste. Bonjour Laure.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent?
Oui. Je m'appelle Laure et j'ai 31 ans, je suis sculptrice. J'ai fait une formation de 2D et 3D dans une école à Orly qui s'appelle Georges Méliès. Et j'ai découvert la sculpture à l'occasion de mes études en 3D et en traditionnel, donc en argile et en cire. Et j'en ai fait mon métier. Sculpteur qui est une large application dans les domaines du cinéma et du spectacle en général.
Je pense qu'il n'y a pas de journée type dans ton métier, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais?
Oui, alors la sculpture et le métier de sculpteur, sculptrice, c'est assez fourre-tout, vous pouvez aller partout, notamment en maquillage d'effets spéciaux dans le cinéma, où il y a des ateliers, où vous pouvez travailler pour faire du décor, de l'objet jouant pour le cinéma notamment, et des prothèses pour les acteurs, voire d'autres éléments. Donc oui, il n'y a pas vraiment de journée type, c'est des horaires d'atelier. En général, on fait du 9h-19h, et on vous demande des contrats qui peuvent être assez courts, selon l'objet ou la chose que vous devez faire. Par exemple, vous pouvez faire un caillou un jour, une semaine sur des macabées ou 3 semaines de sculpture pour faire des prothèses. Donc c'est très variable. Alors moi, souvent en atelier, les trucs qu'on me demande le plus, c'est objets jouants, donc des objets de décor, du cadavre, c'est très demandé, et de la prothèse qui est la partie la plus technique. En gros, c'est le plus complexe, c'est là où on utilise le plus de produits, où on passe par plusieurs étapes. D'abord, on va mouler l'acteur, donc avec des produits, on a une journée dédiée à ça selon tout ce qu'il faut mouler. Donc ça peut être le corps, la tête, des parties spécifiques du corps. Et après, donc, on fait le tirage, on prend l'acteur, on le démoule et après on fait un plâtre de sa tête. On peut commencer à sculpter directement. Après, une fois qu'on a fait la sculpture, on repasse par une étape où on démoule la sculpture et on en fait un négatif d'une partie. Si par exemple on a moulé toute la tête de quelqu'un et qu'on fait une joue, et ben une fois on moule la tête, on tire la tête en plâtre, on fait la sculpture sur la joue, puis après on fait un nouveau moule de la joue seulement. Et on fait plusieurs étapes comme ça, donc, et après on tire du silicone de prothèse et ça peut passer par encore plusieurs étapes de moule, remoule, ça dépend de ce qu'on nous demande, mais c'est le plus long.
Qui te demande de faire ça? Est-ce que tu reçois un mail un matin en disant j'ai besoin d'un caillou ou d'une joue avec du sang dans 2 jours? Avec qui tu bosses au quotidien?
En général, je bosse avec des ateliers et donc les chefs d'atelier qu'on connaît. En fait, on cherche à travailler dans des ateliers et c'est le chef d'atelier souvent qui trouve le contrat par rapport au cinéma. Et nous, en tant qu'exécutants travaillant dans l'atelier, on est tous payés par la production. Mais le chef, c'est celui qui a eu le contrat et qui possède l'atelier en général.
En préparant l'émission, tu m'as dit que tu faisais autre chose que des macabées. Je crois que tu voulais me parler de rats.
Oui, ça c'était un de mes premiers boulots, où c'est comme ça que j'étais entrée dans un atelier. Et le premier boulot qu'on avait, c'était de faire des prothèses de rats pour un documentaire fiction. Et en gros, ça parlait de rats avec des tumeurs. Ils avaient appelé l'atelier où je travaillais, il fallait faire 12 prothèses de tumeurs pour des rats pour le tournage. Et donc on avait fait toute la maquette, donc un forat sur lequel on allait pouvoir sculpter. Donc comme l'acteur, on prend son empreinte pour pouvoir sculpter directement sur lui. Bon, on avait fait un rat test, on a fait les prothèses, on était aux dernières étapes, il en fallait 12. La production a appelé, ils nous ont dit on a trouvé des rats avec des tumeurs, salut les losers quoi. Et en fait, donc ils nous en prenaient plus que 2 au lieu de 12. Et puis le jour de leur tournage, ils nous ont appelé, les rats étaient morts. Voilà, parce qu'ils avaient des tumeurs, c'est vrai. Et donc on a quand même filé nos prothèses quoi. Mais comme c'est des contrats, c'est vraiment le contrat intermittent. C'est à la journée, à la demande, les contrats peuvent s'annuler au dernier moment. Et c'est un peu la représentation du métier. C'est on a trouvé mieux, au revoir, quoi. Ah non, finalement, revenez, on a un contrat, quoi.
Donc ça t'arrive d'avoir des contrats à la semaine et des contrats qui peuvent être très longs aussi, ou c'est principalement court ?
C'est principalement des contrats courts renouvelables. C'est du CDD d'usage, donc il n'y a pas de limite à renouveler les contrats. Et moi, je suis embauchée de semaine en semaine, même si on va me dire que j'ai 3 mois de mission. Mes contrats seront de semaine en semaine en général. Parce que l'idée du contrat d'intermittence, c'est que tu es payé plus ou moins à la journée. Donc comme ça permet de rompre un contrat, que ce soit de l'employeur ou pour l'employé. Et donc ça permet effectivement le spectacle, qui est une activité en fonction d'un événement et donc pas tout au long de l'année. Moi, j'ai pas un emploi régulier, je passe beaucoup de temps à rechercher, à appeler, à rechercher du travail, d'atelier en atelier ou de projet en projet. Hein. De temps en temps, le cinéma, il n'y a pas vraiment de mission, il n'y a pas beaucoup de choses. Tu dérives sur du décor, par exemple, ça peut aller dans le parc d'attractions, ça peut aller dans les skate games ou n'importe quoi de farfelu.
Mais du coup, ça précarise ce que tu es en train de décrire.
Oui, vous n'êtes pas forcément précaire au niveau de l'argent. Ça précarise aussi parce que vous n'avez jamais un endroit fixe où vous travaillez. Donc, il faut être véhiculé en général. Vous voyagez quand même beaucoup pour aller d'un projet à un projet. Intermittent du spectacle, c'est pas spécialement la chose la plus glamour à dire quand vous parlez.
Ça peut être bien aussi d'être intermittent du spectacle.
Voilà, c'est juste que tu peux avoir des jours où t'as rien. Et c'est pour ça qu'il y a intermittent, quoi. C'est des jours de carence qui permettent d'attendre en fonction d'un nouvel emploi. C'est la beauté de ce métier. Puis, grâce aux intermittents, il y a des villes qui vivent, par exemple, ou faire un divertissement pour quelqu'un, quoi. Donc, c'est des beaux métiers. Et il y a besoin de ça parce que ça ne peut pas être du plein emploi tout le temps. Puis, dire aux gens, entre deux, trouve un autre travail que tu dois quitter tous les deux jours, c'est pas possible.
Est-ce que tu peux nous décrire les ateliers dans lesquels tu travailles ?
Alors moi, je travaille dans les ateliers, là je vous parle de maquillage d'effets spéciaux. Et en général, il y a plus ou moins deux types d'ateliers, celui avec une belle configuration et ceux où c'est un peu plus de fortune. Donc dans les belles configurations, c'est pas forcément que l'atelier est joli, mais il y a des espaces bien séparés, avec le stockage des produits. Il y a une salle du cancer qui est distincte et fermée avec ventilation.
Pourquoi tu l'appelles la salle du cancer ?
J'appelle ça la salle du cancer du fait que c'est là où on fait les produits chimiques avec les réactions. Et donc c'est là où il y a la toxicité accrue. Et c'est là où on doit mettre le masque, les gants. C'est là où on est vraiment censé être dans la sécurité.
Mais vous êtes formé ?
Justement, pas forcément. Un des problèmes, c'est que les formations par rapport aux produits chimiques ne sont pas dans les formations qu'on a dans les écoles. Par exemple, moi je viens de la 3D. Et j'ai fait sur le tard un peu toute ma formation sculpture, prothésiste et donc aux produits. Donc on m'a très bien expliqué comment, quel produit utiliser pour faire quoi et les réactions. Et le fait que ça prenne en fonction des températures. Mais par contre, on ne dit pas forcément que la résine, il fait 40 degrés dehors, tu dois couler une grosse pièce, il faut le faire un peu vite. La résine, en fait, à trop haute température, pris en masse, ça peut prendre feu, voire faire des mini-explosions, quoi. Et dans ce cas-là, il faut quand même du sable mouillé. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris en ayant un feu de résine.
Ça t'est déjà arrivé d'assister à des accidents comme celui-ci?
Pour le feu de résine, oui. Après, bon, c'est plus impressionnant, mais si c'est dans un espace maîtrisable, ça va. Si ça prend, il faut quand même que tout le monde soit formé à la sécurité, parce qu'il y a un voisinage. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas des normes de sécurité très mises en avant dans les ateliers que je connais. Donc déjà, il y a ceux qui ont une salle du grand cerf qui est bien fermée. Il y en a qui ont un espace qui est un peu plus loin quoi, que l'espace où les autres travaillent.
Mais dans les ateliers, il y a quand même des espaces qui sont ventilés, ils vous donnent des équipements de protection individuelle, ils sont responsables de votre sécurité aussi, les ateliers qui vous emploient.
Alors, dans les ateliers où on est employé, effectivement, il y a toujours un peu de mise à disposition de cottes, donc des survêtements. Mais les cottes, c'est pas le mieux, ça protège les vêtements et l'hiver, ça tient chaud parce que c'est un peu en plastique. Mais l'été, c'est affreux. Donc en général, vous venez avec vos vêtements d'atelier. Souvent, des masques, il y a des masques à disposition. Mais c'est comme tout. Le masque, si c'est pas le vôtre, vous savez pas qui a craché dedans, qui l'a entretenu, si les cartouches ont été changées. Et de temps en temps, c'est des masques qui sont intégrales et pas à cartouche. Donc ils ont une utilisation de temps en temps. Donc là aussi, vous faites avec ce que vous propose l'atelier. Et en soi, mieux vaut avoir son équipement de sécurité à ce niveau-là personnel, parce que ça évite des dangers et c'est un peu moins sale. Après, il y a le côté humain aussi qui est très important, où les gens doivent regarder un peu si quelqu'un fait un malaise ou pas, selon ce que vous faites comme activité. Et que c'est vrai qu'il y a des jolis ateliers. Une fois, j'avais fait une semaine pour faire... mise en place d'une sculpture et en gros la partie résine, j'ai fait 10 heures de résine en heure sup parce qu'il fallait finir mon contrat en une semaine, donc j'avais pas le temps si je faisais que du 8 heures. Je connaissais pas l'atelier. L'atelier était très beau, très propre, il y avait une ventilation. Personne n'est venu me voir dans la salle du cancer pendant 10 heures et ils m'ont laissé fermer l'atelier, on ne se connaissait pas. Pendant qu'on travaillait là-dessus, j'avais une autre amie à moi qui travaillait en poêle. Donc c'était de la néoprène, si tu veux, ils avaient fait une cabine. C'était propre là aussi, sauf qu'une journée dans la néoprène et d'autres produits, bah, à 60 ans, mon amie, à un moment, elle a fait un peu tourner de l'œil. Sauf que si il n'y a personne pour réagir, c'est pas forcément bien. En fait, c'est aussi le côté humain est presque autant important que le côté sécurité de l'installation. Parce que c'est des heures de travail, même si c'est bien équipé, faut que les gens fassent des pauses, faut qu'ils ventilent aussi eux-mêmes dehors. Et faut être sûr qu'il y ait quand même un binôme dans le cas de produits chimiques pour que tout le monde rentre chez soi, quoi.
Tu fais attention depuis que tu es exposé aux agents chimiques et depuis que tu as vécu des incidents dans ton travail, ou tu fais attention depuis le début ?
Je fais attention depuis que j'ai eu des incidents. Quand je suis arrivée, vous avez toujours plus ou moins les mêmes types de gens. Il y a des gens qui font très attention tout le temps et il y en a qui font tout sans masque. Bon, les gants, tout le monde met des gants, ça c'est quand même...
Quel type de gants ?
Et bien ça aussi, c'est le problème. Personne ne vous forme sur les types de gants parce qu'il y a nitrile, vinyle, latex. Et que en fonction d'un gant par rapport à un produit, vous pouvez avoir des réactions sur votre peau. Le gant peut se dissoudre. C'est très compliqué. Il n'y a pas de panneau avec tel gant va avec tel produit. Bon, on arrive, il y a les gants de l'atelier. Donc le chef d'atelier a souvent pris que les gants en nitrile. Il faut surtout qu'il ait pris toutes les tailles. Mais c'est vrai que... On ne vous apprend pas ça dans les formations et c'est un déficit d'informations pour ce genre de métier.
Tu m'avais parlé du nom que donnent les collègues à la salle du cancer, comme tu l'appelles.
Oui, alors la salle du cancer, moi je suis arrivée dans les ateliers, il y avait très nettement les gens en dessous de 50 ans qui mettaient plus leur masque et qui faisaient plus attention à eux, qui appelaient ça la salle du cancer. Et ceux qui étaient plus cinquantenaires et plus, eux, c'est la salle des trucs qui puent. Et il y a une nette transition au niveau de la sécurité qui est générationnelle, où il y a beaucoup de gens, ils ont été formés sans masque et ont continué. Et pour l'instant, je ne sais pas où en est leur santé, mais c'est des mauvaises habitudes aussi qui peuvent très vite être prises par les gens de 20 ans qui arrivent, où c'est tout nouveau ton monde du travail et tu fais un peu comme les gens qui te présentent ton métier quoi. Donc faut pas se fier aux gens qui mettent pas de masque, c'est comme les polystyrènes hein, qui peuvent être soit très compressés, donc des petites poussières qui vont très loin dans le poumon, soit des grosses billes. Et moi j'avais toujours vu des gens quoi, au niveau des gros blocs de polystyrène avec des grosses billes pas mettre de masque, Donc moi j'ai taillé comme ça, et puis un jour j'ai avalé ma boulette de ma bille de polystyrène. Je mets un masque maintenant, quoi. Bon, c'est pas anecdotique comme histoire, mais c'est une fois que vous avez le problème que vous faites attention en général.
Tu formes les nouveaux diplômés quand tu les vois arriver en atelier?
Sur la résine, oui. Après, c'est pas effectivement, c'est pas moi la formatrice des produits chimiques. Et ça va vite aussi dire des informations inutiles. Donc, devrait y avoir effectivement quelqu'un pour faire ce tour d'atelier pour tout le monde, même avec des outils et pas que du produit chimique ou de portage. Si ça n'a pas été inclus dans les formations que les gens prennent, et ben une fois que tu arrives en atelier, c'est pour tout le monde un peu un dû que tu sais ce genre de choses, ce qui n'est pas forcément le cas.
Est-ce que tu penses que ton métier va évoluer ?
Oui, je pense qu'il est en constante évolution parce que depuis 20-30 ans, la 3D est arrivée de plus en plus et maintenant on a même l'impression 3D. Et avant c'était assez un clivage où il y a peu de films qui intégraient SFX et VFX, donc effet 3D et effet réel, quoi. Et c'est quelque chose qui est un peu en train de se remettre en question et pour un travail plus main dans la main, effet 3D, c'est très numérique. Ils ont apporté le fait qu'on peut scanner des acteurs et scanner aussi des éléments que les maquilleurs et les prothésistes ont fait pour l'intégrer dans la 3D. Donc il y a peut-être plus autant de répétitions de moulage et donc de résinage. Et il y a aussi le fait que pour les acteurs, c'est pas mal le scan 3D si t'es claustrophobe. Et donc il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi permettre d'alléger les charges de travail. L'impression de moule au lieu de les faire, ça évite de porter aussi des charges lourdes. Ça fait moins aussi de résidus toxiques dans l'air. Il y a beaucoup de changements, j'espère, qui vont arriver d'ici les prochaines années grâce à une porosité de la 3D, du monde de la 3D et de ses outils dans le maquillage. C'est sûr que ça peut aller pour le mieux après, quoi.
Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier ? Est-ce qu'il y a une mission ? Tu dis ça, j'adore.
En fait, moi, j'apprécie un peu tout dans mon métier, mais surtout le fait que comme on travaille avec des produits dangereux et n'importe quoi, en fait, c'est possible qu'on travaille avec n'importe quoi. Ça fait qu'on peut faire des choses avec n'importe quoi. C'est, vous avez un problème, il y a toujours une façon de le résoudre. C'est quelque chose qui fait beaucoup travailler le cerveau comme métier, je trouve, un minimum. Il y a beaucoup de questions sur comment faire quelque chose le plus optimisé possible, le moins lourd, comment faire sortir une pièce sans la casser. Il y a beaucoup de questions pour le cerveau qui sont très amusantes à résoudre. Enfin, chaque jour est une aventure assez rigolote, quoi.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute dans ce secteur ?
Oui, alors plusieurs conseils. Déjà, il faut être persévérant pour trouver les adresses et commencer à rentrer dans ce milieu-là. Investir dans sa propre sécurité, donc avec son propre matériel. Effectivement, c'est mettre de côté une partie de ses débuts de salaire pour s'outiller, avoir des masques, des chaussures et pas compter sur les outils des ateliers. Être véhiculé aussi et ménager sa fatigue parce que c'est des horaires assez durs et éviter d'être trop à dire oui pour l'exploitation parce que d'une certaine façon, c'est un peu quelque chose de vu et revu dans les ateliers aussi. Et sinon après, ouais, ne pas hésiter à aller d'atelier en atelier et à demander de pouvoir travailler sur les choses qui vous intéressent. En fait, pas hésiter à aller droit au but par rapport à ce que vous voulez. Il y aura toujours un atelier pour vous ouvrir la porte.
C'était le 9e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci beaucoup à Laure pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, rendez-vous sur talisante.org et les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.